Bonjour, ici Marc Levasseur. C'est toujours un peu gênant de faire écouter son thème amateur à des gens qui savent jouer de la musique, mais on est quand même chanceux de les avoir en studio. On va vous les présenter tantôt. C'est la suite de l'entretien avec Jeff Mosley et les Django Messengers. Ici Marc Levasseur, vous êtes à Django et compagnie, une émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. On parle de jazz, de musette, musique des Balkans, tzigane, flamenco, klezmer et musique du Moyen-Orient. On parle toujours de variations musicales teintées d'influences locales telles qu'on peut les entendre au Québec, à Montréal et ailleurs, évidemment, dans le monde. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook qui a le même nom sur Instagram, c'est-à-dire Montréal et Jazz Manouche. Alors, comme je le disais tantôt, on poursuit cette semaine l'entretien qu'on a débuté à l'épisode dernier avec Jeff Mosley et les Django Messengers, qui ont préparé un album qui va sortir en février, mais on continue à parler de l'album et surtout on continue à l'écouter. On y va avec une première pièce qui se nomme Monsieur Jeff Mosley.
Reincarnation of a Lovebird.
Ben voilà. Alors, la réincarnation d'un oiseau amoureux. Librement traduit. Beaucoup, messieurs. Alors, je les représente parce que c'est une nouvelle semaine, parce que même si on les a eus la semaine dernière, les gens ne sont pas toujours fidèles à l'écoute, n'est-ce pas? Je m'adresse directement à vous, chers téléspectateurs, ou plutôt auditeurs et auditrices. Vous devriez être plus fidèles, franchement. Alors, ceci étant, j'ai Jeff Mosley ici. Bonjour, Jeff. Il est avec Brenda, l'excellent violoniste.
Bonjour.
Et Olivier Georget à la contrebasse.
Bonjour.
L'homme qui met l'assise rythmique derrière tout ça, le gros boum, 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 c'est lui.
J'essaie.
Ben voilà. Vous allez bien, ça va bien, ça va bien. Alors, comment on choisit? Parce que la semaine dernière, on a parlé évidemment de faire un album en 2023, c'est peut-être, mais bon, vous nous avez expliqué clairement là, pourquoi on fait un album. C'est une carte de visite, puis ça permet aussi d'arrondir un petit peu les fins de mois dans certains cas. Mais comment on choisit les pièces qu'on met sur un album? Ça, c'est peut-être la question suivante, c'est-à-dire, comment on sélectionne? Parce que c'est quoi? C'est 8-10 pièces, j'imagine, un album à peu près? Là?
Celui-là, il va en avoir 12.
12, bon, ben encore plus. Ouais. Mais comment on les sélectionne? Parce que vous avez un répertoire qui est quand même assez vaste.
C'est une bonne question. C'est une question que je volontairement me pose pas trop.
OK.
Dans le sens que il y a certaines choses, je réalise en vieillissant qu'on est mieux de juste y aller avec l'émotion.
OK.
Avec le feeling. J'écoute une pièce, je l'aime, je la travaille. Si j'ai le goût de la jouer et de la rejouer, ben je vais avoir tendance à dire ça, c'est une bonne tune pour mon album. C'est sûr que ça dépend des groupes dans lesquels on est, mais pour un groupe de jazz manouche, de jazz improvisé, instrumental, moi, je me suis pas posé de questions. J'étais allé avec ce que j'aimais jouer dans cette période-là de ma vie.
Voilà. Est-ce qu'il y a justement une trame, est-ce qu'il y a une ligne directrice à travers tout ça? C'est-à-dire qu'on parle d'une pièce qu'on aime, mais je veux dire, il faut qu'elles aient un lien entre elles pour faire un album cohérent, là.
Oui, c'est pas un album conceptuel, celui-là en particulier, mais c'est certainement un album qui rend hommage à la musique de Django Reinhardt, mais aussi qui fait un rappel au concept initial du groupe qui est un peu nébuleux parfois, mais qui est de mélanger la musique qui est venue après Django, la musique plus du hard bop,
okay.
Bebop aussi un peu, mais hard bop, plus le jazz straight ahead américain, mélanger ça avec le jazz manouche, c'est aussi une des raisons pourquoi le groupe a un drum.
Oui, c'est vrai, parce que vous avez... Oui, ouais, parce qu'on vous a vu en spectacle, il y avait...
Maud Bastien au drum. Ouais, on la salue. Bonjour, Maud.
Oui, bon, ben, écoutez, c'est dommage qu'on ne puisse pas aménager une batterie dans le studio, parce que ça aurait été bien aussi, mais effectivement, OK, donc, oui, c'est ça, c'est plus les instruments classiques jazz. Vous, Brendal, le violoniste Brendal, qui est avec nous encore ici une fois, puis il se tient un petit peu loin du microphone, mais il va s'approcher lentement. Vous, quand vous regardez le concept, parce que j'imagine que ça se développe à plusieurs personnes, ça, c'est quoi votre approche, vous, pour un album, mettons? Parce que vous avez fait avec d'autres groupes aussi, etc. C'est-tu juste un feeling? C'est plus cartésien? C'est comment ça fonctionne?
Bien, je vais dire quelque chose. Pour les Django Messengers, c'est vraiment plus Jeff Mosley et les Django Messengers. Donc, c'est un peu plus la vision à Jeff qu'on va suivre. Donc, ouais, c'est ça.
Vous épousez son émotion.
Quand il dit « Ah, on va jouer Embraceable You sur l'album », on est comme « Let's go ».
OK.
C'est ça que lui, il feel, puis c'est lui la star du band, tu sais.
Oui, mais quand même, je veux dire, il faut que vous ajoutiez, il faut que vous en mettiez de la viande autour de l'os aussi.
Ah, ben tu sais, c'est sûr qu'on aide pour les arrangements, puis tout ça, puis...
Mais je tiens à dire, Brian, par exemple, que souvent, il y a des tunes que c'est vous qui me parlez de cette pièce-là, puis finalement, je retourne chez nous, je la pratique, puis elle se ramasse sur l'album.
Ah oui, 100%. Je veux dire, il y a plein de ces tunes-là qu'on jouait dans la cuisine à Olivier, on était comme « Ah, est-ce que vous avez entendu cette tune-là de Django? C'est trop cool! » Puis là... Mais ultimement, la décision de le mettre sur l'album, c'est comme la tienne.
Ouais, c'est
ça. Je peux vraiment parler de ça, en fait.
Au final, c'est Jeff qui a le dernier mot, mais je pense qu'un des
trucs qu'il fait... Aïe, les gars, là, je me rendais pas compte de ça.
Jeff, c'est un peu un tyran. Non, mais je pense qu'en fait, ce qui fait la force de ce band-là, c'est qu'on a vraiment des goûts musicaux similaires. Fait que, justement, on sait plus c'est qui a proposé la tune, parce que, tu sais, moi, il y a 2-3 tunes que... Je sais plus c'est qui l'a proposé, mais c'est une tune que moi je voulais proposer, mais que je me suis fait comme devancer. Puis c'est comme, là j'ai l'impression que c'est mon idée, mais non. Tu sais, Reincarnation of a Lover qu'on vient de jouer. Moi j'ai toujours voulu jouer cette tune-là, mais aucun projet dans lequel je voulais jouer ça. Puis à un moment donné, Jeff est arrivé en disant « Hey, on joue-tu cette tune-là? » J'étais comme « OK. »
Puis c'est facile de travailler avec ces gars-là parce qu'ils sont très passionnés sur cette musique-là. Fait que quand ils me parlent d'une chanson, comme l'autre fois, Olivier me parlait de la pièce Louise de Django, puis il l'aime tellement, la toune, que finalement, je me dis, c'est contagieux, là. Je vais la pratiquer, puis on va la jouer.
On écoutait ça au secondaire, Louise, puis on était comme « Wow! »
Mais de toute façon, moi, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que musicalement, ça s'entend très clairement, mais là, je pense que vous venez de nous donner le plus bel exemple de qu'est-ce que la cohésion d'un band, d'un groupe. Vous venez juste de le faire, les trois ensemble, alors c'est génial. Merci beaucoup, messieurs. On vous écoute avec une prochaine pièce, et qu'est-ce qu'on va jouer, monsieur le leader du groupe, Jeff Mosley?
Le tyran du groupe, clairement.
Voilà.
On va y aller avec « Pour que ma vie demeure ».
Pour que notre vie à tous demeure et s'améliore, en fait.
Exact.
OK, on vous écoute. Thank you. Est-ce que c'est Django Reinhardt, ça, cette pièce?
Je pense que oui.
Je pense que oui, je cherchais.
Je suis pas certain.
Mais c'est... De toute façon, si c'est Django ou pas, Django l'a joué.
Oui.
Et sa vie, elle est demeurée, puisque ça fait 70 Absolument. Ans aujourd'hui, cette année, en fait, qu'il est décédé. Et on joue encore sa musique, on le célèbre. Et je pense qu'il y a comme un engouement pour sa musique, pour le jazz manouche en général, qui se dément pas.
Absolument.
Ce fut une année pas mal faste à Montréal. Et je pense que la prochaine va être encore plus excitante, parce que les Jeff Mosley, les Django Messengers vont notamment nous sortir un album en février.
Exact.
C'est d'ailleurs la pièce qu'on vient d'entendre va se retrouver sur cet album.
Oui.
Bon. Alors, messieurs, j'aimerais ça qu'on fasse rapidement un petit peu votre parcours à chacun. Parce qu'on parle d'album, on parle de paquet de choses, mais c'est le fun de voir. Jeff Mosley, on l'a déjà eu à l'émission, mais juste rappeler brièvement votre parcours musical. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique, vous avez fait quoi, etc. Mais vraiment, 30 secondes top chrono.
Écoute, j'ai commencé la musique. Je suis allé au cégep de Drummondville.
En musique?
Oui, ça m'a confirmé que je voulais être musicien. Okay. C'était vraiment une belle expérience.
En jazz?
Okay. J'ai pogné une bonne coche musicale aussi grâce à ce moment-là. À cet âge-là, on évolue vite.
Oui, on apprend vite.
Puis ça a vraiment été marquant pour moi. Ensuite, j'ai été à l'Université Concordia en musique. Disons, c'est mon parcours académique, mais sinon, j'ai découvert le manouche vraiment en voyage. Je savais pas c'était quoi du manouche. Puis
c'est le voyage. Le manouche, c'est le voyage. C'est les gens du voyage.
Exactement. Puis Django, ça a été vraiment comme quelqu'un qui m'a suivi toute ma vie, qui m'a inspiré.
Oui, parce qu'on l'a invité à entrer tantôt, mais il n'a pas voulu, mais il vous suivait, oui.
Bravo, Marc, je l'avais pas venu.
Bon, on va passer avec l'ami Olivier, ici présent. Olivier Georget, votre parcours, comment vous êtes arrivé à la musique? La contrebasse, c'est quand même particulier, un jeune homme de votre âge qui joue de la contrebasse.
Oui, je pense que j'ai un parcours assez classique de bassiste. Jouais de la guitare comme tout le monde... adolescent, puis là, j'ai rencontré des amis qui étaient dans un band de rock, puis il y avait personne qui voulait jouer de la bass. Fait que j'ai commencé à jouer de la bass dans le band de rock, mais je connaissais rien du tout à la musique. Puis là, finalement, rendu au cégep, je savais pas trop que j'allais faire. Puis mon meilleur ami, Bren, elle s'en allait en violon jazz à Saint-Laurent. Fait que je me suis dit, bon, tant qu'à rien faire, je vais aller étudier en jazz aussi. Fait que j'ai fait Saint-Laurent en bass électrique jazz. Puis finalement, j'ai arrêté parce que comme une histoire classique de bassiste, je commençais à avoir des gigs avant de finir mon parcours scolaire.
Oui, c'est ça, oui.
Fait que j'ai arrêté le cégep, puis en arrêtant le cégep, j'ai fait deux ou trois concerts de jazz manouche avec une basse électrique. Puis c'était évident que ça marchait pas. Fait que j'étais allé m'acheter une contrebasse vraiment merdique. Qui m'a toffé que pendant un an que j'ai appris en autodidacte, puis j'ai commencé à jouer du jazz manouche, puis le reste is history, comme on dit.
La grosse différence, parce que évidemment, pour ceux qui connaissent moins là, l'instrument qui est la basse, la grosse différence entre une contrebasse et une basse électrique, c'est quoi?
Que c'est facile de transporter une basse électrique.
Voilà.
C'est la différence principale niveau mode de vie. Mais après ça, c'est sûr que c'est ça. C'est plus gros, puis la technique est différente. Déjà, c'est vertical au lieu d'être horizontal comme une guitare basse. Puis c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de fret. Fait que faut se fier à son oreille puis sa mémoire musculaire pour trouver les bonnes notes. Puis... une basse ou une guitare, tu peux jouer 4 ou même 5 notes dans une position, puis à la contrebasse, tu peux seulement en jouer 3. Fait que
c'est ça plus change la dynamique. Ça change la dynamique, ouais.
C'est comme plus compliqué de se déplacer entre les notes.
Mais faut dire que la raison pour tout ça, c'est le son.
Ben oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. C'est plus chaleureux.
Ouais, c'est ça. C'est plus chaud, c'est plus rond, c'est plus gros.
Exact.
Mais la position de trois notes, c'est intéressant en guitare, c'est pareil. C'est que si tu vas être obligé de maximiser finalement ta position avant de changer, parce que tout le monde est paresseux, les instrumentistes, on le sait. Mm. Fait qu'avant de changer de position, tu vas maximiser ce que tu as là, puis souvent, ça donne des choses intéressantes.
Bien, c'est pour ça que la musique de Django est tellement particulière.
Il y avait deux doigts. Voilà, c'est ça. Exactement. Bren Dahl, violoniste, vous et le violon, vous êtes rencontrés comment?
J'ai commencé à 8 ans en cours privé, puis j'étais pas très diligent. Ou intéressé par l'instrument. Puis après ça, au secondaire, j'étais dans un groupe de rock avec mon ami Olivier.
Okay.
Qui jouait à la guitare. Puis bon, à travers le rock, le blues, le jazz manouche. Puis après ça, je me suis dit, c'est quand même cool ça. Puis j'ai comme un peu repris de l'intérêt dans le violon. Je suis allé au cégep. Puis on a commencé à jouer du jazz manouche, puis on est là.
Le violon, parce que c'est un instrument qu'on entend beaucoup dans la musique, mettons, des Balkans, etc., musique d'Europe de l'Est, est-ce que c'est une musique qui vous interpelle, vous, personnellement?
Est-ce que ça m'interpelle? Je veux dire, j'apprécie toutes les musiques instrumentales, c'est sûr, mais moi, je suis d'avis, je comprends que on est un peu ce qu'on mange, right? Donc, si
on mange du manouche, on joue du manouche.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai tendance à focusser vraiment là-dessus. Donc, je me proclamerai même pas un amateur dans aucun style de musique de l'Est ou rien.
Ah, mais c'est génial.
Mais j'apprécie vraiment écouter ça. C'est vraiment bon.
Merci, messieurs. Alors, on écoute une autre pièce tout de suite. Et puis après ça, on va revenir pour la suite de l'entretien. Alors, on écoute quoi, monsieur Mosley?
On va y aller avec...
Oui, c'est une bonne pièce, ça.
Swing 85.
Swing 85, parce qu'il y a Swing 59, 46, il y a des numéros, mais 42. Mais là, c'est Swing 85 de Jeff Mosley et les Django.
Et les Django Messengers. C'est une pièce de Titi Winterstein.
Winterstein. Titi. Allez, on écoute ça. Thank you. messieurs, merci beaucoup. Écoutez, on a pris tellement de temps qu'on est à la fin de l'émission. Juste rapidement, on n'aura pas le temps. Vous allez vous préparer pour une pièce de sortie, s'il vous plaît. Juste le temps de dire que l'album va être en pré-vente. Il va y avoir un événement au Mixeur prévu le 7 décembre. Ça se peut que ça bouge, mais pour l'instant, c'est le 7 décembre au Mixeur au 4282 Saint-Denis à Montréal. Et je veux remercier tout le monde d'avoir été là. Donc, Jeff Mosley, les Django Messengers avec leur album qui va être publié en février. Oui, Jeff, vous vouliez dire un mot?
Ben, je voulais juste dire merci, Marc, pour tout.
Ben, merci à vous.
Oui, merci, Marc.
Merci, Bren.
Merci.
Merci. Alors, sur ce, on écoute quoi pour conclure, Jeff? Hein?
On va faire notre pièce classique de sortie, I Love You.
I Love You, bon. We Love You Too.
Cool.
Allez-y, messieurs, on vous écoute.
Un, deux, un, deux,
et thème d'ouverture Marc Levasseur. Je vous dis merci et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Django et compagnie. Alors, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.